vous avez parti en avance sur la définition de la résistance, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Aujourd'hui, après un an et demi de recherche, je vous avoue qu'on n'a toujours pas trouvé une définition précise, mais on s'approche. Ensuite, des exemples, parce que je crois qu'avec des exemples, des photos, on interprète et on visualise vraiment de quoi il s'agit. C'est plus parlant pour moi, je préfère toujours travailler beaucoup avec les photos. Et enfin, que reste-t-il de la résistance adaptée aujourd'hui? Donc la définition de base de la résistance, c'est l'opposition des Français à l'action de l'occupant et du gouvernement de Vichy. Donc, c'est une définition trop basique qui ne prend pas en compte le contexte alsacien. Et là, c'est clair qu'on pourrait plutôt dire opposition des Français à l'action de l'occupant qui a annexé l'Alsace. On n'est plus dans un pays occupé, on est dans un pays annexé. Donc là, déjà, on voit tout de suite que la définition de base de la résistance ne va pas du tout avec l'Alsace. Alors, on va aller peut-être un peu plus loin, on va aller dans le dernier travail scientifique de grande ampleur qui a eu lieu sur la résistance, le dictionnaire historique de la résistance française, où Pierre Laborie, dans un excellent article sur la résistance, évoque quatre caractéristiques qui peuvent expliquer et qui peuvent composer finalement la résistance. Alors, tout d'abord, c'est la volonté de nuire à un ennemi identifié, donc qu'il soit occupant ou à son service. Donc là, on sait que c'est les nazis. Surtout ici en Alsace. La conscience de résister, c'est-à-dire de participer à une expression collective de refus par une décision volontaire et une adhésion responsable à des objectifs clairement affirmés. Donc là, c'est clair que pour moi, ça reste la caractéristique la plus importante, c'est la conscience. Avoir la conscience de résister. Bien entendu, on peut, par exemple, tuer un soldat de la Wehrmacht, mais ça se trouve. C'est peut-être pour venger parce qu'il a pillé la ferme des parents ou autre. C'est pas obligatoirement la volonté de résister. Et ça, c'est très important. Et je vous avoue que ça, c'est aussi très compliqué à identifier aujourd'hui, 70 ans après. La troisième, c'est quelque chose de très important également, c'est l'engagement dans des formes d'action imposant des comportements et des pratiques de transgression. En d'autres mots, c'est tout simplement être hors la loi. C'est-à-dire ne pas écouter le gouvernement qui a autorité sur le territoire où l'on est. Et enfin, la quatrième, vraiment très intéressant aussi, c'est la possibilité de résister selon des stratégies à des multiples, en fonction de priorités propres et en poursuivant des objectifs spécifiques. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est à partir du moment où on parle de groupes, par exemple les communistes, on pouvait parler aussi des tziganes, également des juifs. Et c'est des stratégies, justement, de résistance par rapport à ce que veut faire l'occupant, ou la puissance occupante, la puissance qui annexe le pays. Donc c'est vraiment une stratégie selon un groupe bien défini. Donc on est quand même dans une définition qui est un peu compliquée. C'est très compliqué d'ailleurs de trouver un résistant qui rentre dans ces quatre critères-là. Alors, en Alsace, il est évident qu'on a un contexte quand même très particulier et qui nous amène plutôt à nous rapprocher de la recherche allemande. Alors la recherche allemande, elle est beaucoup plus simple quand il s'agit de traiter la résistance. En Allemagne, en gros, je schématise parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, les Allemands et les chercheurs allemands définissent deux formes de résistance. Vous avez d'abord la résistance Widerstand, qui vise clairement à abattre le régime nazi. C'est-à-dire que derrière les actes que l'on commet contre les nazis, il y a une idée de changer tout le gouvernement, d'essayer de mettre en place une autre forme de gouvernement. Il y a vraiment une... Et puis, vous avez l'opposition résistance, qui là rassemble tous les comportements d'opposition et autres. Vous avez par exemple cette fameuse photo qu'on vient de retrouver il n'y a pas longtemps aux portes de Hambourg, où l'on voit des ouvriers d'un chantier naval qui lèvent tous la main en disant à Hitler, sauf un au milieu. Voilà une forme d'opposition, donc de résistance. Donc ces deux notions peuvent être utilisées en Alsace, mais encore, il faut faire attention au statut particulier, puisqu'il ne s'agissait pas de l'Allemagne. Donc, en réalité, ce qu'on a trouvé par rapport à nos recherches, c'est que la résistance des Alsaciens se rapproche des définitions citées selon le cadre géographique. Donc pour la France de l'intérieur, forcément, elles vont se rapprocher des définitions de Pierre Laborie que j'ai définies en premier. Et en Alsace, elles vont plutôt se rapprocher du cadre allemand, de la recherche allemande. Et enfin, en Alsace, il y a une résistance qui est spécifique, c'est la résistance des incorporés de force. Et cette résistance-là, j'ai tenu dès le début à ne pas l'incorporer dans les deux premières définitions. C'est vraiment quelque chose qui n'a absolument rien à voir et qui doit être traité à part. Donc, on peut malgré tout essayer de synthétiser tout ça et donc de définir trois formes de résistance des Alsaciens. Vous avez ce qu'on appelle la forme organisée, c'est-à-dire si la personne appartient à un mouvement, à un réseau, une filière d'évasion, un groupe, un acte, qui a des objectifs politiques, militaires, bien définis. Là, on peut dire... effectivement, qui se trouve dans la définition de M. Laborie. Vous avez l'opposition caractérisée par des milliers d'actes individuels en Alsace ou en Europe. Là, on sera plus sur ce qu'on appelle la résistance civile, qui se rapprochera de la résistance des historiens et chercheurs allemands. Et puis, en troisième lieu, donc la résistance des incorporés de force, que l'on peut décliner en deux entités différentes. Vous avez la résistance à l'incorporation de force avant l'incorporation elle-même, et ensuite après avoir revêtu l'uniforme des Allemands. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec des exemples. Alors, le premier exemple, je ne sais pas si vous connaissez Alphonse Adam, il y a une cérémonie tous les ans, le 15 juillet 1943. Monsieur Alphonse Adam a été fusillé en même temps que cinq autres membres du Front de la Jeunesse d'Alsace. En réalité, au lieu de vous présenter Alphonse Adam, je me suis dit que ce serait très intéressant de vous présenter ses sœurs. Parce qu'en réalité, on n'est jamais résistant tout seul. Il y a toujours un univers dans lequel on baigne. Et il ne faut pas oublier que ses sœurs, et notamment les deux plus grandes que vous voyez aux extrémités, ont eu un dossier de combattants volontaires de la résistance et donc ont été reconnues comme résistants. Donc Isabelle et Micheline. Et donc, elles étaient l'une employée à la préfecture et l'autre une employée du bureau, et elles fournissaient des renseignements. Alors, voilà une première chose extrêmement importante en Alsace par rapport à la résistance. Alors là, je parle de la résistance en Alsace, des Alsaciens. La première chose très importante, c'est le renseignement. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. La deuxième chose qui est très importante également en Alsace, c'est les filières d'évasion et les passeurs. D'ailleurs, c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé dans mon mémoire. Et ici, vous avez une stèle qui se trouve dans une maison privée à Kandelbruch, où il y a eu deux réunions en juin et juillet 1944, de tous les chefs de la résistance alsacienne pour structurer la résistance avant la libération des Alliés qui va se produire en novembre 1944. Et au lieu de vous parler de ces chefs de la résistance, je tenais plus à vous parler des gens qui ont fait passer ces chefs de la résistance des Vosges en Alsace. Et vous avez un bûcheron de Grandfontaine qui s'appelle Marcel Petitjean, et donc vous avez la citation à l'ordre de l'armée. Voilà, donc deux choses. On a vu le renseignement, les filières d'évasion. Troisième volet de la résistance alsacienne, très important, la résistance ouvrière. La résistance ouvrière qui va se marquer notamment par le réseau Bolli. D'ailleurs, Bolli a un parking maintenant, ici, il a une rue. Donc c'était vraiment le réseau du Parti communiste que Bolli incarnait à la fois en Alsace, mais également en Moselle. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Bolli est mort sous les coups de la Gestapo, en avril 1943, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de ses collaborateurs, notamment du Haut-Rhin, et si je ne me trompe pas, ils sont 8 total, ils nous voient entre 8 et 10 maintenant, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais qui ont été exécutés par les nazis en juin 1943 à Stuttgart, après avoir été condamnés à mort pour haute trahison et surtout pour préparation à un complot d'État. Voilà. Donc, si on résume, on a dit renseignement, guerre d'évasion et résistance ouvrière. Là, on est vraiment dans les trois grands volets de la résistance alsacienne en Alsace. Maintenant, on va traiter de la résistance alsacienne hors Alsace. Et là, on a une personne très intéressante, Aloïs Ecker, qui était gendarme à Provence-sur-Fave, et qui, lui, a été pris dans une rafle qui faisait partie d'une filière d'évasion en liaison avec des gens dans le bac de Villers. Il a été envoyé au camp de concentration de Dachau, puis au Auschwitz, et puis il est décédé en déportation. Mais ça, c'est un exemple tout à fait typique. De nombreux Alsaciens, finalement, quand ils ont fui l'Alsace, ne sont pas partis si loin que ça, en Dordogne ou autre, mais sont restés près des frontières, comme les Occitans en 1870. Il y en a beaucoup qui se sont installés juste de l'autre côté des frontières, ont gardé des liens avec l'Alsace. Là, on est exactement dans le même cas. En réalité, son fils m'a dit que son père avait refusé d'être gendarme allemand et qu'il avait préféré venir dans les Vosges. Alors voilà un autre exemple de résistance tout à fait original que j'ai retrouvé lors de mes recherches en Savoie, c'est Charles Ney. Parce qu'en Savoie, lorsqu'on évoque la Savoie, on se dit tout de suite les maquis, notamment les Guillères. Alors les Guillères, c'est en Haute-Savoie. Moi, j'ai étudié la Savoie juste en dessous. Et alors je me suis dit, effectivement, qui encadrait les maquis en Savoie? Eh bien, c'était un Alsacien, le premier, qui s'était évadé d'Alsace et qui s'était engagé dans l'armée d'armistice. Et par la suite de l'armée d'armistice, s'était engagé dans la résistance et dans les maquis. Et cette personne a été arrêtée par les autorités françaises, jugée par les autorités françaises de Vichy, et ensuite transférée à la Gestapo qui l'a déportée à Dachau. Alors, un autre exemple du résistant alsacien, et d'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage aux deux. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, mais si je ne me trompe pas, voilà, de gauche à droite, vous avez Jean-Pierre et Gilles Pernet, qui ont été photographiés à Saint-Armand de Montron. Jean-Pierre et Gilles Pernet, oui, tout à fait. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Pernet, je connaissais son histoire, mais en revanche, je ne connaissais pas du tout l'histoire de son frère, qui a eu un destin assez incroyable. Alors, tous les deux appartenaient au maquis Surcouf, qui a été attaqué par des unités SS après juin 44, en juillet 44, exactement. Et donc, tous les deux ont été faits prisonniers. Bien que Gisbert ait été blessé, il a réussi à s'en tirer, à être déporté, mais... Il a réussi à revenir de déportation. Quant à son petit frère, lui a été jugé par un Volksgericht et il a été condamné à la peine capitale et exécuté le 18 janvier 1945 à la prison de Neuss. Voilà, donc vraiment un destin incroyable. Donc des résistants qui, eux, se trouvaient à la limite de la ligne de démarcation. Alors maintenant, je vais vous parler de la troisième forme de résistance dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la résistance des incorporés de force. Ça, c'est un papier que j'ai retrouvé dans un dossier de résistants. Alors, vous voyez, je n'avais que ce papier, et j'ai réussi à lire entre les lignes. En réalité, cet homme a une rue à Bischheim, il s'appelle Charles Herm, et incorporé de force, il a été jugé par un tribunal de guerre et exécuté à Salonique, en Grèce. Apparemment, avec le peu d'informations que j'ai, je sais juste qu'il transmettait des informations à la résistance grecque, et c'est dans ce cadre qu'il a été arrêté et exécuté. Donc on voit très bien, 31 juillet est condamné et exécuté le 27 août. Donc ça lui laissait très peu de temps, naturellement, pour se défendre. Alors, Jacques Necht, on vient d'inaugurer une revue en décembre dernier, à la mémoire des deux frères Knecht, dont l'un est mort en Hongrie. Mais son frère, Jacques, a eu vraiment un parcours exceptionnel. Incorporé de force, il a été buté en tant qu'interprète à Tournon et s'est évadé pour rejoindre les FLN. Avant d'être arrêté à nouveau avant d'être arrêté par les Allemands, enfermé donc, à la forteresse d'Ingolstadt, condamné à mort et fusillé. Voilà vraiment un destin incroyable de ces malgré nous qui ont résisté, de ces incorporés de force qui ont résisté et qui finalement ont eu leur destin un peu plus. Alors, Une autre personne extrêmement intéressante aussi, Rita George, qui lui a déserté en Norvège avec trois autres personnes et a intégré la résistance norvégienne avant d'être enfermé, avant d'être arrêté et donc être enfermé à Oslo. Donc vraiment, vraiment quelque chose d'assez incroyable. En plus, ils sont évadés dans la nuit du 9 au 10 novembre 1944, donc juste avant la libération de Strasbourg, et surtout parce que leur unité devait être envoyée en Europe. Et eux ne voulaient absolument pas combattre les Alliés, donc voilà, ils ont tout fait pour s'échapper. Alors maintenant, je vais vous parler, on va dire, de quelque chose d'autre encore, d'une autre résistance, mais celle-là qui est, on va dire, qui est générale à tous les départements français, c'est la résistance des Alsaciens qui ont rejoint les forces françaises libres. Alors là, vous avez un excellent exemple, c'est Jean Cadon, qui venait de Molsheim, ou des commis bouchers, et qui a rejoint la France libre avant de s'engager dans une unité aéroportée. Il a sauté donc en Bretagne et il a été tué au combat le 18 juin 1944 lors de la libération de la Bretagne. Vous avez également le char Cherbourg d'Alfred Simer, que je crois que vous connaissez au cours du Rhin. Lui s'était également évadé, venait donc de la Rancourt, et qui a été tué au combat le 23 novembre 1944, mais vraiment juste devant le pont de Kiel, qui était finalement l'objectif secret de Leclerc le 23 novembre. La prise de Strasbourg, c'était une chose, mais avant tout, ce que voulait Leclerc, c'était le pont de Kiel pour pouvoir avoir une tête de pont sur le train. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette mission héroïque, que Albert Timmer a trouvé la mort. Alors, que reste-t-il de la résistance alsacienne? On peut se poser aujourd'hui la question. Parce qu'à travers tous les exemples que je vous ai donnés, on a bien conscience qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaissait pas, et que même moi, j'ai également appris à connaître, et j'en découvre encore tous les jours, je ne vous cache pas. Donc, par la diversité des actions ainsi que le contexte particulier, finalement, la résistance alsacienne n'a jamais pu être mise au premier plan. Alors, tout d'abord, on peut expliquer ça par les déchirures internes qu'il y a eu, parce que la résistance, c'est ça, c'est deux choses. D'un, on met l'allemand dehors. Deux, on s'accorde sur la politique générale qui va par la suite. Mais vous imaginez bien, et en France de l'intérieur, ça va être exactement la même chose, que le combat politique va reprendre tout de suite après la libération et va entraîner finalement un souvenir qui va disparaître. C'est-à-dire que les luttes politiques vont reprendre le pas sur finalement les volontés de la résistance, notamment au niveau politique, social et autres. Bien qu'on peut considérer qu'il y a certaines choses au niveau politique qui a pris sur l'héritage de la résistance, notamment juste après la guerre. Mais en Alsace, ce qui s'est passé, c'est que le système répressif nazi a fait que notamment à Schirmeck, Ensisheim ou Haguenau, on a enfermé les résistants dans les mêmes endroits que les droits communs et autres. Ce qui a fait qu'il y a eu un amalgame extrêmement important. Et ce qu'il y a de plus important, je pense, finalement, c'est que la mémoire des malgré nous, cette spécificité des malgré nous ici en Alsace et en Moselle, a pris le pas sur la mémoire de la résistance. Je crois que ça, c'est très important. Si on calcule, il y a 100 000 malgré nous ou incorporés de force en Alsace. Pour l'instant, avec le calcul, on est un peu moins de 5 000 résistants. On voit tout de suite que l'on n'est pas dans les mêmes chiffres, on n'est pas dans les mêmes proportions, et forcément, au niveau de la mémoire, tout ça, ça va rester. Et finalement, ce sont peut-être plus les individualités qui vont mettre en avant l'héritage de la résistance. Et j'ai trouvé justement un exemple, Joseph Rey, l'ancien maire de Colmar, qui va s'impliquer dans le rapprochement franco-allemand après la guerre. Et il ne faut pas oublier que Joseph Rey avait été condamné à 3 ans de prison par un Reichskriegsgericht. Et donc, voilà, on voit vraiment l'engagement des personnalités de la résistance alsacienne. Donc, avec de nombreuses plaques, stèles et monuments de mémoire, donc la résistance alsacienne reste au cœur de notre patrimoine, et aujourd'hui encore, vous avez des plaques, il y en a une qui n'est pas loin, du Sélénic, hein, la mémoire de Georges Maudly, mais il y a un monument qui, moi, m'a marqué depuis le début de mes recherches, il est à Liebsheim, et dans le cadre d'un sentier de la paix à la Croix du Moulin à Yerxagne, là où il y a eu des combats pour la libération de la poche de Colmar en janvier 1945. Et ce mouvement de mémoire, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'aperçu qu'il donne de toutes les composantes alsaciennes durant le conflit. Vous avez d'abord les expulsés patriotes réfractaires à l'annexion de Paris. Vous avez les internés et les déportés. Vous avez les réfractaires et les évadés. Vous avez les incorporés de force. Vous avez la résistance. Vous avez les engagés volontaires aux armées françaises. Vous avez les prisonniers de guerre et les invalides et les blessés. Donc ça vous donne vraiment un aperçu, peut-être même de la difficulté finalement de mon travail, de déterminer qui est résistant et qui n'est pas à travers cet imbroglio de statuts différents. Et finalement, en conclusion, je vous invite à retenir finalement peut-être juste trois choses. C'est que la résistance alsacienne aujourd'hui, elle se détermine à la fois par une résistance géographique et historique, donc ça s'explique très facilement par l'Alsace et la place qu'elle a au cœur de l'Europe, mais notamment au niveau de la France et de l'Allemagne. Historique, bien entendu, avec cette première annexion en 1870, cette réintégration française qui, en 1918, a fait débat. Ensuite, une résistance originale et spécifique, alors ça, je vous en ai parlé, c'est forcément la résistance des incorporés de force, c'est les filières d'évasion, c'est le renseignement, la résistance ouvrière ici en Alsace, et plus spécifiquement donc la résistance des incorporés de force, mais vraiment avec un contexte particulier. Et puis une résistance nationale et européenne, puisqu'il est vrai que finalement les résistants alsaciens ont existé partout, et pas forcément qu'en Alsace, mais également dans toute la France. Alors j'ai des exemples, il y en a beaucoup à Lourdes, à Toulouse, en Dordogne, forcément, là où les Alsaciens ont été évacués, ils avaient expulsé. Mais il y en a eu également à Lyon, en Savoie, j'en ai retrouvé également beaucoup à Paris, j'en ai retrouvé quelques-uns en Normandie, j'en ai retrouvé partout. Et je crois que ça, c'est très important. Et au-delà de ça, au-delà de cette vision nationale, il y a une véritable vision européenne par rapport à la résistance des incorporés de force, où là, j'en ai retrouvé partout également. Vous avez vu un exemple en Norvège, je vous ai montré un exemple en Grèce, mais il y en a eu beaucoup en Italie, beaucoup en Pologne, en Russie également, en Bulgarie, j'en ai trouvé, notamment beaucoup dans les ex-pays de Yougoslavie, en Slovénie, en Bosnie, etc. En Belgique également, en Hollande, enfin j'en ai trouvé dans tous les pays. Et cela prouve vraiment à montrer qu'au-delà d'une résistance régionale, nationale, la résistance alsacienne a été une véritable résistance européenne. Je vous remercie pour votre attention.